Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être dans un nouveau numéro de talk show sur Radio Judaïka Strasbourg. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle « Comment j'ai échappé au malheur » de Annick Pérez aux éditions Roman Ramsey. Nous avons avec nous l'auteur de ce livre. Bonjour Annick Pérez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous avez déjà écrit de nombreux livres. Quelle est votre formation?
J'ai étudié aux Beaux-Arts. Ensuite, j'ai fait une vingtaine d'années d'exposition de peinture. Et en même temps, j'ai publié des livres. Celui-ci est mon huitième. J'ai publié chez Fayard, j'ai publié chez Philippe Rey, chez des grands éditeurs. Et aujourd'hui, je suis chez Ramsey. Alors, mais mon plus gros succès, c'était Une nuit à Carthage, qui est publiée chez Balzac.
D'accord.
Et qui a été traduit en anglais.
Est-ce que je peux dire, avant de parler du livre, que c'est un roman autobiographique ou c'est vraiment une histoire romancée du début jusqu'à la fin?
Non, c'est autobiographique. Ah. C'est le premier roman complètement autobiographique que j'ai écrit, puisque même Une nuit à Carthage, qui est écrit par rapport à ma mère et un jeune d'Israël qui était venu en Tunisie pour ramener des jeunes juifs, il faisait partie du Mossad pour ramener des jeunes juifs en Israël. C'était quand même très romancé parce que je ne connaissais pas tout ça dans les années 50, j'étais pas du tout, j'étais pas née. Donc je ne connaissais pas tout ça, donc j'ai romancé. Par contre là, c'est complètement autobiographique.
Alors on va raconter le début de cette histoire, comment j'ai échappé au malheur. En fait, c'est une histoire qui au départ est une histoire, on va dire, qui arrive malheureusement à beaucoup de gens. Ça m'est arrivé également. C'est la perte d'une sœur qui est décédée plutôt jeune. Et cette perte-là, chacun a évidemment sa façon de faire le deuil. Et vous, vous avez une façon tout à fait bizarre. En tout cas, c'est ce que disent votre entourage. Vous êtes peintre, donc vous peignez beaucoup. Vous écrivez. Et vous avez toujours un Walkman sur les oreilles. Et vous écoutez Jean-Jacques Goldman. La fin de l'histoire, on va vous la laisser parce qu'il y a une happy end à la fin. Mais est-ce que c'est un peu le résumé du début de l'histoire?
Oui, c'est le résumé, mais je n'ai pas choisi, si vous voulez, de refuser le deuil comme ça. C'est venu de façon étrange parce que c'était quand j'ai vu toutes mes cousines en noir, tous ces gens qui se jetaient sur moi, etc. J'ai tout refusé en bloc. Et j'ai mis un Walkman rouge que mon mari venait de m'offrir. Et c'était dans la fin des années 80. Et je suis tombée sur une chanson de Jean-Jacques Goldman,
Confidentielle.
Et qui a fait que tout d'un coup, mon chagrin a eu un visage. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est que Jean-Jacques Goldman, et c'est là où les religieux peuvent avoir une réponse à ça, même si on m'a fait voir beaucoup de psychiatres, moi je crois que c'était plutôt une question de croire ou pas, c'est que d'un coup, il y a quelque chose de paranormal qui s'est passé. C'est que
mais vous êtes croyante déjà au départ ou pas du tout?
J'ai prié pendant que ma soeur était en réanimation, Elle avait 30 ans. J'ai prié pendant qu'elle était en réanimation, c'est ma grande soeur, c'était toute ma vie. J'ai beaucoup prié, j'ouvrais les fenêtres, je me disais que peut-être on m'entendra plus, enfin je ne sais pas. Mais croyante, je ne sais pas, je doute beaucoup, mais en tout cas, il y a une chose à laquelle je crois, et maintenant j'en suis sûre, et à l'époque j'en étais sûre, c'est que ce n'est pas normal de rencontrer Jean-Jacques Goldman, qui était à l'époque la plus grande star de la fin des années 80, en bas de chez moi, rue du Cherche-Midi. Ou en voiture quand je roule.
Enfin, en même temps, quand on lit le livre, on voyait que vous êtes vraiment dans la mystique. Vous êtes persuadé que votre sœur Monica vous envoie des messages. Vous envoyez partout.
Non, pas des messages, mais ce message-là en tout cas, parce que J'ai quand même cogné, j'allais aux toilettes dans une brasserie où j'étais bien avant Jean-Jacques Goldman.
On peut lire ça dans le livre. Hein.
Ouais, et je l'ai cogné, je l'ai cogné à l'épaule. Il s'est retourné, on s'est retourné les deux, et après il m'a invité à dîner. Ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Mmh. Ça n'existe pas. C'est pas mystique, c'est que ça n'existe pas. Donc,
alors c'était un soir de concert, faut le dire.
Oui.
Il était en concert une heure avant.
Il était en concert, et moi j'étais partie au bout de 10 minutes parce que je m'ennuyais. Et je suis allée, on était 4. Moi, j'ai dit qu'on était 2, mais en fait, on était 4. Mmh. Et celui qui conduisait, puisque moi, je conduisais pas ce jour-là, a dit, moi, j'ai faim. Mmh. Et moi, j'ai dit non. On rentre à Paris. C'était saoulant. J'ai pas, le concert était trop long et tout. Mmh. Et on est allé dans un restaurant. Il y en avait plein. On est rentré dans un restaurant. Et j'ai dit, commandez-moi du saumon. Quand je suis descendue, ça faisait déjà, j'avais déjà quitté le concert depuis au moins une heure. Mmh. Et là, je rencontre Goldman qui a failli avoir une. Mais c'est pas la première fois. On s'est rencontrés plein de fois.
Plusieurs fois, ouais.
Chaque fois, il avait très très peur. Et jusqu'à présent, il n'a pas su parce que je ne lui ai jamais dit que j'avais perdu ma sœur. Et il comprenait pas pourquoi il me rencontrait et que je ne le suivais pas.
Alors, vous avez aussi une deuxième histoire sur Jean-Jacques Goldman. Vous savez. Persuadé que Jean-Jacques Goldman a une parenté avec Pierre Goldman.
À cette époque-là, personne ne le savait.
Ça vous.
Et moi, je l'ai vu, c'était une amie qui m'avait invité au Zénith. Elle m'a dit, écoute, puisque tu l'écoutes tout le temps, on va aller le voir au Zénith. Et je suis allée le voir, et dès qu'il est arrivé sur scène, j'ai dit, bah, c'est le frère de Pierre Goldman, et personne ne savait qui était Pierre Goldman. Et j'ai dit, bah oui, mais moi, je l'ai lu. Ce livre, j'avais 14 ans, mon père l'avait acheté. Et j'ai dit, mais enfin, c'est son frère, ça se voit tout de suite. Et tout le monde s'est marré parce que personne ne savait qui c'était. Et quand je l'ai vu au dîner,
c'est peut-être ça
évidemment, on a parlé de ça.
C'est peut-être ça dont il avait peur, non?
Comment?
C'est peut-être ça dont il avait peur.
Non, mais c'est pas qu'il a eu peur, c'est qu'il a carrément... Il est devenu blême. Déjà, il était blême. Hein. Mais j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi pâle et d'aussi maigre. C'est la première fois que je dînais avec lui, enfin qu'il m'a invité à dîner. D'ailleurs, j'ai même pas mangé. Il était d'une maigreur de visage et tout ça. Et très. Mais alors, quand je lui ai parlé de son frère, alors là, son demi-frère d'ailleurs, puisqu'il n'est
oui, il est
pas
le
demi-frère. Et là, il est devenu fou. Et tout d'un coup, j'ai dit, vous savez quoi? Je me suis levée, j'ai dit, moi, je m'en fous. Je suis partie. Je suis partie.
Alors, Annick Pérez, comment j'ai échappé au malheur aux éditions, on l'appelle Ramsey Romans. Dans votre livre, il y a aussi une galerie de personnages. Il y a plein de gens qu'on rencontre. Et il y a une chose qui m'a étonné, c'est que vous appelez vos parents par leur petit nom, Alice et Paul. Vous ne dites jamais maman ou papa. C'est quelque chose dans la famille ou c'était un mode de communication entre vous?
Non, quand j'étais petite, je les appelais par maman et papa. Mmh. Mais mon père, très vite, mon père, tout le monde l'appelait Paul. Et du coup, pour mettre en place les personnages, je disais plutôt Alice. Mais c'est vrai que mes parents ont subi ce deuil de manière beaucoup plus violente.
Mais c'est comme ça que vous les appeliez dans la vie, enfin, quand vous étiez un peu plus adulte, Alice et Paul?
Non, je disais papa et maman.
D'accord.
Mmh. Ouais, mais sinon ils ont subi, enfin ma mère notamment est restée en vie, elle a voulu se jeter sous un camion et elle est restée en vie parce qu'elle a vu que elle pensait que j'avais perdu la raison puisque je refusais absolument ce malheur. Et que ce Walkman, si vous voulez, je le mettais même à table, je le mettais tout le temps.
Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé. C'est quand vous dites à votre mère finalement que Monica, votre sœur décédée, était la préférée, que vous auriez préféré que ce soit vous. Elle vous a répondu, ne dis jamais ça. Est-ce que vous pensez toujours que l'amour qu'avait votre mère pour votre sœur était plus grand que pour vous?
Ah oui,
et ça
ne
vous dérangeait pas?
Non, parce que je trouvais qu'elle avait raison, donc... Non, je trouvais qu'elle avait raison, ma sœur était quelqu'un, c'est pas du tout parce qu'elle est partie, parce qu'elle est décédée, c'est parce que c'était quelqu'un de... C'était une sorte... Un jour, j'avais dit à mon père, tu sais, papa, je crois que Monica est une sainte, et là, il m'a donné une claque, et je lui ai dit, mais pourquoi? Et il m'a dit, parce qu'on est sainte, meurt jeune. Mmh. Et c'était quelqu'un d'exceptionnel, qui n'était pas du tout mon cas.
Mais est-ce que vous avez vraiment eu un déni de la mort de votre sœur?
Non, je disais aux gens, quand les gens me demandaient comment elle allait, je disais qu'elle allait bien. Mais je savais parfaitement qu'elle était morte.
D'accord, c'est pas un déni.
J'étais pas dans le déni, non, pas du tout. Par contre, j'ai vu beaucoup de psychiatres qui voulaient m'interner.
On le dit dans le livre.
Mon mari a refusé, ma mère a refusé, tout le monde a refusé.
C'est quand même bizarre que tout le monde voulait vous interner et que tout le monde trouvait folle, sauf votre famille qui vous a soutenu jusqu'au bout.
Parce que ma famille aussi a basculé un petit peu, hein, et eux aussi, ils étaient plus très nets. Hein.
Ouais.
Et le choc était trop violent pour ma tête, je pense, et que j'ai choisi ce chemin de traverse, c'est-à-dire de trouver une solution autre que ce que font les gens habituellement, c'est-à-dire de se mettre en noir, de plus sortir.
Vous continuez, vous dessinez, vous continuez à écrire, etc.
Oui,
pour vous, vous repromenez de votre vie, oui.
Ah oui, je dessine tout le temps. Je dessine tout le temps, mais par contre, j'ai le Walkman 24 heures sur 24.
Et pourquoi Jean-Jacques Goldman? C'était un choix décidé.
Parce que mais j'étais pas fan de Goldman du tout. J'étais fan de Johnny quand j'étais jeune.
D'accord.
Je suis tombée sur cette chanson confidentielle où il disait « Ton visage et ton sourire restent auprès de moi ».
Alors ça tombe bien, parce qu'on va écouter justement cette chanson-là, Jean-Jacques Goldman, confidentiel, et on se retrouve tout de suite après.
Je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi. Sur mon chemin, te dire que c'était pour de vrai, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, que c'était pas pour de faux, que c'était bien. Faut surtout jamais regretter. Même si ça fait mal, c'est gagné. Tous ces moments, tous ces mêmes matins. Je vais pas te dire qu'il faut pas pleurer. Y'a vraiment pas de quoi s'en priver. Et tout ce qu'on n'a pas loupé le valait bien. Peut-être on se retrouvera, peut-être que, peut-être pas, mais sache qu'ici-bas, je suis là. Ça restera comme une lumière qui me tiendra chaud dans mes hivers, un petit feu de toi. Qui s'éteint pas.
C'était Jean-Jacques Goldman avec Confidentiel. C'est une chanson que Annick Pérez, notre invitée, a dû apprécier. Comment j'échappais au malheur aux éditions Roman Ramsay. Annick Pérez, pourquoi vous avez choisi le prénom de Anouk dans votre livre plutôt que de votre vrai prénom?
Parce que pas mal de gens m'ont appelé Anouk déjà quand j'étais petite, on m'appelait Anouk, Nicotte, plein de noms. Et puis parce que mon prénom Annick avait été donné par une infirmière, donc ouais. je le sentais pas, je l'habitais pas cette période-là. Je l'habitais pas complètement cette période-là. Mais enfin, c'est surtout un livre qui donne des pistes pour survivre.
Je le dis souvent, mais j'ai vécu malheureusement ça encore récemment. Souvent, les gens disent, chacun a sa façon de faire le deuil d'une personne qui décède, un proche. Vous, c'est quoi? C'est un exemple pour d'autres personnes?
Certains disent que ça a été ça ressemble à ça, c'est qu'on peut choisir une autre route que la route obligatoire du deuil total, etc. On peut trouver une autre solution. Moi, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai refusé. D'ailleurs, j'ai complètement je n'ai plus vu les gens qui se sont jetés sur moi à l'époque. Je voyais des gens qui ne connaissaient pas ma sœur, donc je n'étais pas obligée de parler de ma sœur. J'étais pas obligée de dire ce que je ce que mais par exemple je me souviens que après avoir vu un journaliste André Berkov d'ailleurs qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu as etc. Il comprenait pas, il trouvait bizarre. Je suis sortie et je suis allée me couper les cheveux très courts.
Alors
j'avais des comportements un peu bizarres, mais je n'ai pas sombré dans la folie, même si les psychiatres disaient que c'est un phénomène très connu de s'accrocher à une vedette. C'est vrai, c'est connu. Ce qui n'est pas connu, c'est que cette vedette, elle soit toujours en bas de chez vous.
Alors,
ce n'est plus connu.
Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est la musique ou alors l'écriture qui vous a fait le plus de bien? Est-ce que c'est d'avoir un Walkman, d'écouter Jean-Jacques Goldman continuer?
Pardon? Le Walkman. Je pense que le Walkman, enfin la musique, m'a coupé complètement de la réalité et du monde, et ça m'a sauvé bien sûr. Mais ce qui m'a sauvé, c'est à la fin, c'est la fin du livre qui m'a sauvé.
Qu'on va pas raconter, parce que elle est très très joyeuse en tout cas. Vous, en fait, au début de l'histoire, vous racontez votre histoire pour la première fois à quelqu'un de proche, à votre fille. Ça s'est vraiment passé comme ça?
Oui.
Vous avez ramené votre fille en leur disant « je vais te raconter mon histoire » ou c'était pour lancer le livre?
Non, c'est pas pour lancer le livre, c'est que j'ai jamais parlé de ça vraiment. Bon, elle a toujours entendu parler de ma sœur, évidemment. Mais je n'ai jamais raconté avec tous les détails comme ça. Je n'ai jamais raconté, par exemple, qu'on a failli m'interner. Je ne lui ai jamais raconté que le Walkman, elle croyait que c'était que je le mettais de temps en temps. Elle ne savait pas que je le mettais même quand j'avais dîné.
Mais c'était tout le temps, même devant des dîners de travail, etc. Oui.
Ah, tout le temps. Mais j'entendais ce que les autres me disaient. Mais moi, j'avais le Walkman.
Et toujours la même chanson, vous changez de temps en temps?
Non, tout le temps.
Confidentiel.
Non, c'était toutes les chansons. D'accord. De Goldman.
Alors, ce qui est intéressant dans le livre, vous le dites des mille fois, vous dites, je l'écoute sur Goldman, je le rencontre par hasard, et pourtant, vous n'êtes pas fan. Comment ça se fait?
Mais c'est ça que je ne comprends pas. j'ai pas compris pourquoi c'est tombé sur lui, mais...
Et vous dites, je ne suis pas fan, vous le dites clairement.
Non, je n'étais pas fan. Non, je n'étais pas fan.
Vous l'êtes maintenant?
Non. Mais je sais que son frère m'a appelé à la suite de mon premier roman qui s'appelle Celui qui ne fut pas choisi, parce que j'ai toujours été fascinée par les frères, par les sœurs, en disant qu'il y a toujours un dans les familles qui est choisi et pas tous. Et son frère Robert m'avait appelé en me disant qu'il avait lu Celui qui ne fut pas choisi, parce que ça parlait des frères de Jean-Jacques et de Pierre. Et donc peut-être que c'est, je ne sais pas, pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu paranormal, un truc que Marc Lévy aurait pu écrire en disant, et si c'était vrai, bah oui, c'était vrai. Je l'ai rencontré en bas de chez moi, au 100 rue du Cherche-Midi, Jean-Jacques Goldman.
Alors,
et j'ai grandi à Montrouge comme lui. Il habitait au 67 avenue Verdier, j'habitais au 101. On n'a pas le même âge, mais j'ai grandi dans la même rue.
Vous ne croyez pas aux coïncidences ?
Il y en a trop de coïncidences. À un moment donné, il y en a trop. Et, et si un jour il lit ce livre...
Vous lui avez envoyé ?
Non, parce que je n'ai pas son adresse, mais une des lectrices qui m'a écrit en me disant qu'elle voulait absolument lui envoyer, que c'était le plus beau livre qu'elle ait lu, etc. J'ai dit, mais personne ne sait où il habite, on sait juste qu'il habite à Marseille, c'est tout. Je ne vais pas mettre Jean-Jacques Goldman Marseille. Voilà. S'il en entend parler, il le lira. Mais il saura enfin pourquoi, parce que lui, il se souvient c'est sûr qu'il se souvient très bien de moi, puisque dès le premier jour, il a dit, c'est une longue histoire. Il a compris que il s'est même, vous l'avez vu, une fois tapé la tête contre le mur quand il m'a rencontré. Donc il a jamais su pourquoi j'étais là.
Alors,
il n'a jamais su pourquoi.
On va laisser lire le livre aux gens parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires, ces coïncidences, votre début du livre, vos rencontres et votre façon de penser. Je voulais finir l'interview sans trop donner d'informations. Vous m'avez fait une petite dédicace en envoyant le livre et je voulais que vous nous finissiez par ça. Vous m'avez écrit « La vie finit toujours par gagner ». C'est suite à cet épisode-là que vous avez vu que la vie gagnait toujours ?
Ouais, ce jour-là, j'ai compris. Je ne sais pas ce jour-là, mais
cette période-là.
En 89, je me suis dit la vie finit par gagner. Mais je n'y croyais pas au départ.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui vivent ces moments-là ? Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui ont perdu leur sœur, leur mère, leur père ? Et qui sont
surtout
dans...
une sœur de 30 ans, ouais. Avec son bébé.
Ouais, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là ?
Je peux dire qu'il ne faut pas aller voir de psychiatre, je ne pense pas. Il faut courir. Comme quand une bombe explose, il faut courir. Courir, ça ne sert à rien de rester à souffrir comme ça, ça sert à rien, il faut courir, il faut aller dans un autre pays, ne pas voir les gens tout le monde croit qu'il faut rester avec ses proches et tout, moi je crois que c'est l'inverse, il faut s'éloigner, il faut essayer de s'évader, de courir comme c'est exactement. En fait, ce décès, c'est une bombe qui explose. Personne ne reste à côté d'une bombe.
C'est clair. Annick Pérez, comment j'échappais au malheur, aux éditions Ramsey Romans. C'est vraiment un livre très poignant, avec beaucoup de bons moments, moments aussi tristes, comme c'est l'histoire, malheureusement, de temps en temps de la vie. Je vous remercie beaucoup, Annick Pérez, d'avoir accepté
Merci
de répondre à nos questions. Et on invite évidemment tous les auditeurs à aller voir le livre. Pour être franc, il n'est pas très gros. Et donc, ça se lit assez rapidement. Il y a une centaine de pages. Vous pouvez lire ça en une belle après-midi. Ça passe comme il faut. Merci beaucoup, Annick Pérez. À très bientôt.
Il y a des rires et des larmes donc, en même temps.
Oui.
Et c'est ce qu'on demande à un livre.
Voilà,
merci beaucoup de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Merci beaucoup.